19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est toujours un plaisir. Heureux de vous retrouver dans Les Informés sur Beurre FM. Et bien, au menu, au programme, nous allons revenir sur la soirée exceptionnelle du football, la Ligue des Champions, le PSG, Manchester City. Est-ce que le PSG est prêt pour la bataille de la Ligue des Champions? On en parlera tout à l'heure avec les débatteurs. On reviendra sur Éric Zemmour, qui monte, qui grimpe, qui secoue et qui tacle Macron. Évidemment, je parle des sondages, les sondages crédités pour un sondage de 13%. On en parle tout à l'heure. Et puis on reviendra, vous savez quoi, aussi sur... Tiens, tiens, la justice est trop laxiste. Ça, c'est la population qui estime que la justice est trop lente et opaque. Et bon, on reviendra sur cela. Et puis on recevra deux invités aujourd'hui qui viennent nous parler pour une première édition, premier événement exceptionnel, France-Maroc, avec ce qu'on appelle les rencontres de la diplomatie culinaire. Que se cache derrière ce terme? Eh bien, on va tenter de comprendre évidemment tout cela. 01 53 48 3000, c'est le standard tout à l'heure. C'est parti, c'est tout de suite et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Un petit coup du PSG, tiens, moi je suis un supporter du PSG, moi, voilà. Alors, on reviendra sur cette actualité, le PSG là, et sa victoire hier. Messi, il a été incroyable quand même. Allez, je vais recevoir tout de suite l'invité actu. Aujourd'hui, c'est parti maintenant.
Les informés, l'interview.
L'interview avec Rachid Saïdi et Naïma Sifer. Bonjour à vous deux, bonjour Naïma Sifer.
Bonjour,
bien dans le micro, tout va bien?
Oui, très bien, merci.
Heureux de vous recevoir à vos côtés, c'est Rachid Saïdi, bonjour.
Bonjour Adil.
L'un et l'autre, vous êtes donc directeur d'exploitation, de gestion pour les hôtels de Paris.
De la collection Monsieur.
De la collection Monsieur, bienvenue. Et vous êtes notamment le représentant des rencontres de la...
C'est le cofondateur de la rencontre diplomatique culinaire.
C'est ça, cofondateur. Exact. Ah, effectivement, cofondateur. Naïma Sifer, vous êtes élue.
Tout à fait.
Et la présidente de l'association de cette rencontre
de la diplomatie culinaire.
Alors on va en parler justement pour que nos éditeurs sachent de quoi il s'agit. C'est un premier événement, un peu inédit. Ça se passe où? Et puis surtout, comment est née cette folle idée d'organiser la rencontre diplomatique culinaire? Que se cache derrière le mot diplomatie, Naïma Sifer? Pourquoi avoir mis le mot diplomatique?
Alors on connaît les liens.
Alors qu'on connaît les relations exécrables du moment. Ça vous fait sourire.
Ça n'a pas toujours été exécrable justement entre la France et le Maroc.
Oui, c'est vrai.
C'est une relation d'amitié, de fraternité plutôt. Donc la diplomatie culinaire, la gastronomie, c'est un art. Mmh. On a voulu rassembler autour de cet art gastronomique les deux pays, voilà, avec des chefs étoilés français et marocains qui seront présents, et des produits du terroir français et marocain. Donc une première partie dès demain à la Maison du Maroc,
de
11h à 17h et le vendredi de 11h à 16h. Et une soirée de gala qui sera clôturée à l'école au CFA de Médéric.
Alors on va revenir justement sur le programme précisément, mais quand on parle de rencontres diplomatiques culinaires, on s'attend à des débats, des tables rondes, autour évidemment de cette philosophie, de la cuisine culinaire. On peut s'attendre à ça? Est-ce que le programme propose cela? Parce que quand je regarde effectivement, en tout cas, la rencontre qui se déroule demain et vendredi, à ne pas manquer pour nos auditeurs, vous nous donnerez l'adresse et le lieu. Et on sait d'ailleurs que le Maroc et la France se battent systématiquement chaque année le trophée, le trône. Hein, en tout cas, l'un aujourd'hui, c'est la France. Mais il y a quelques années, c'était le Maroc. Ça fait partie de la gastronomie mondiale au monde. Le Maroc et la France sont les deux premiers gastronomes au monde.
Exact.
Bien sûr.
Alors l'un et l'autre répondaient, hein, Rachid et Naïma, il n'y a pas de souci.
Moi, tu peux aller.
Naïma et ensuite Rachid.
La gastronomie française et la gastronomie marocaine, leur réputation n'est plus à faire du tout. C'est une tradition qui est...
On ne parle pas de cuisine, on parle de gastronomie. Donc là, on est au top du top.
Ah oui, on est top du top, oui. C'est pour ça qu'on a des très grands chefs étoilés. Et on a justement des chefs qui connaissent très bien le Maroc et qui cuisinent déjà avec des produits marocains. Et le contraire. Et les Marocains, les chefs marocains, on les retrouve dans des très beaux palaces parisiens. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on a voulu tout mettre tout ça à l'honneur, en fait.
Rachid Saïdi?
Bien sûr, on parlait avant par rapport à la cuisine marocaine.
Bien dans le micro.
C'est ouais. vrai, maintenant on parle de la gastronomie. Avant, ce qu'on remarquait, beaucoup de chefs de cuisine étoilés qui sont dans des palaces au Maroc, comme Mansour et plusieurs palaces au Maroc. Maintenant, avec la nouvelle génération qui arrive, donc ils ont pris cette formation et ce savoir-faire aussi de la gastronomie. Donc, comme il a dit Naïma, on retrouve aussi maintenant des chefs qui sont d'origine maghrébine ou marocaine, qui sont dans des palaces parisiens. Et franchement, oui, avant, il y avait une concurrence entre la France et le Maroc par rapport à cette cuisine-là, mais maintenant, on tape un petit peu, comme tu as dit, plus fort. Et on cherche aussi que cette jeunesse marocaine, de la cuisine marocaine, qui se transforme un petit peu à la cuisine gastronomique et qui seront aussi nos ambassadeurs ici et ailleurs.
Oui, parce que la cuisine, elle a une histoire, elle date depuis des siècles, évidemment, elle est installée. Les parrains de cet événement, j'ai vu que vous aviez quand même des personnalités parmi et pas n'importe qui, des chefs étoilés. J'ai vu Naïma et Rachid. Hein.
Exact.
Oui, oui. Alors, comment s'est fait le choix, justement, des parrains cette année pour cette première édition?
Eh bien, Lahsen Hafid, qui est marocain déjà ouais. et qui travaille dans un très très beau palais parisien.
J'ai vu.
Voilà.
Oui.
Qui nous a fait confiance sur cette première édition.
C'est une signature du milieu, hein.
Exactement.
Lahsen Hafid.
Oui, oui.
Exact.
On ne fait plus sa réputation, hein. Mm-hmm. Et Gérard Salé, ben, qui est très connu. Ah,
Gérard Salé, je ne le présente même
exact.
Plus.
Ouais, voilà,
Gérard Salé, c'est par excellence, évidemment.
Et c'est un amoureux du Maroc.
Voilà. Ah oui, ça, je ne savais pas.
C'est un amoureux du Maroc ouais. et il cherche aussi
à transmettre.
D'avoir une petite synergie entre sa cuisine gastronomique.
Ouais, on peut le dire, hein, Gérard Salé, qui a été multiprimé, hein,
oui.
en exact. Tant que chef étoilé. Hein.
Oui. Exact.
Il a fait de très
exceptionnel, hein.
Et aussi, il retourne un petit peu aux sources, donc il va voir tout ce qui est coopérative, la cuisine.
Il va les aider parfois même bénévolement, donc c'est vraiment quelqu'un qui est très amoureux du Maroc.
Et alors, pourquoi vous voulez créer cette passerelle entre justement ces deux mondes gastronomes, la France et puis le Maroc? Qu'est-ce que vous voulez faire dans cette diplomatie culinaire, justement? Est-ce que vous voulez créer un débat? Est-ce que vous voulez créer une formule, une nouvelle formule, un mix entre la France et le Maroc? Qu'est-ce que vous voulez faire?
La formule, elle existe déjà. Donc, il y a des festivals qui sont partout dans le monde, qui existent. Et ce sera la première édition et la première rencontre de cette diplomatie culinaire ici à Paris. Et je remercie Naïma qui a travaillé
d'arrache-pied
depuis le début. Et franchement, je tire mon chapeau par rapport à elle. Sans elle, cette édition n'existera pas.
Bravo, Naïma, donc.
Merci à toi, Rachid, d'avoir accordé ta confiance, surtout.
Ouais,
il est très gentil avec moi.
Ouais, mais écoutez, Naïma, vous voulez dire, alors, Naïma Sifer.
En fait, c'est un honneur en fait, pour nous et un privilège d'avoir créé ce genre d'événement parce que nous, l'idée, c'est rassembler justement ces deux pays par la gastronomie. Quoi de mieux être autour d'un bon repas pour justement rassembler et discuter.
Alors, et le mot, alors, le protocole, pardonnez-moi, le protocole, vous avez vu le lapsus, l'aspect diplomatique, il se positionne où dans cette première édition, justement?
Justement, avec les deux pays. Ça engage les deux pays, la France et le Maroc.
Est-ce qu'on est dans la chose politique, là?
Bah, on a des gens, des officiels qui viendront. On a le partenariat de l'ambassade, quand même, du Maroc.
Il y a l'ambassadeur du Maroc qui nous fera honneur aussi demain.
Il fera honneur de leur présence.
Il y a leur présence aussi, on peut en dire.
Il y a Catherine Dumas aussi, la sénatrice, qui nous a félicité pour ce style d'événement.
Qui est directrice de l'amitié France-Maroc. Exact.
Voilà pourquoi la diplomatie, justement, c'est autour de la gastronomie. On a voulu montrer que, une belle table avec un bon repas, bien évidemment, ça rassemble et ça crée forcément du lien.
Et j'ai vu que durant ces deux jours, justement, Rachid Saïdi, Naïma Sifer, des producteurs vont pouvoir exposer.
Ah oui.
Exposer
exact.
Quoi
et de très beaux produits.
Est-ce que c'est l'occasion de se faire connaître?
Exactement. On a voulu aussi donner cette chance de mettre en lumière les artisans qui ont beaucoup souffert de la crise du Covid, hein, en lumière tous leurs produits. Et en plus, ils ont de très bons produits.
Le Maroc en a beaucoup souffert, justement, de cette crise sanitaire.
Le Maroc, la France, ils ont énormément souffert. Et ils ont de très jolis produits et parfois qui sont peu connus du grand public. Et c'est pour ça que cette édition, elle parle à tout le monde, à tout public. Donc, il y aura de l'amelou. L'amelou qui est...
Qu'est-ce que c'est que l'amelou?
L'amelou, c'est une sorte de pâte à tartiner chez les Marocains.
À base de miel et d'amandes.
Voilà, très naturel. En fait, faut venir goûter. Demain, il faut venir goûter. Ouais. Parce qu'il y aura des dégustations.
Ça a bonne réputation, amelou.
Oui,
hein,
oui, oui, énormément.
Paraît-il.
Du miel.
Très bon pour la santé.
Et maintenant, même des chefs de palace parisiens, ils l'utilisent dans leur cuisine.
Oui. Ah oui?
Exact.
Donc, de plus en plus.
De plus en plus.
Pourquoi? Parce que ça a des bienfaits sur la santé?
Non, il y a plusieurs produits. Il y a la tendance maintenant, ça revient un petit peu tout ce qui est bio, tout ce qui est la cuisine de la maman à l'ancienne, de la, des grands-parents.
Ça revient.
Ça revient maintenant. C'est pas que ça revient, c'est la base de la cuisine au monde entier. Donc on revient toujours à la source. Ouais. Et la plupart des chefs maintenant français qui ont acquis cette expérience au Maroc, des dans des villages, dans des coopératives, dans des petits bleds reculés au Maroc, donc ils cherchent. Et
ben justement, je vous pose la question. Est-ce que vous avez mis à l'honneur justement toutes ces mères de famille qui
bien
parfois
sûr.
Justement, on parle d'elles comme de grandes dames.
Exact.
Et que derrière les fourneaux, c'est parfois évidemment.
Il y aura justement une masterclass avec les mamans marocaines
ah, c'est vrai.
Qui seront là, qui seront présentes. Donc on les mettra.
Masterclass des mamans.
Oui, oui.
Eh bien, ça va être quelque chose. Ça.
Ah oui, ça va être quelque chose.
Ça va être quelque chose. Également des chefs, un concours de chefs, j'ai vu dans votre programme, les chefs participants. Alors, de quoi on parle précisément quand on s'adresse justement à ces chefs?
Alors, les chefs confectionneront un repas, donc le dîner de gala.
Donc, il y a des jurys.
Non. En fait, on n'a pas fait sous forme de jury, mais on fera l'entrée chef français, chef marocain, le plat et la viande chef français, chef marocain, toujours avec les apprentis du chef Fad Médéric, qu'on remercie énormément parce qu'ils nous ont. Accueillis pour l'événement. Donc, Médéric, c'est une école hôtelière à Paris.
Ah ouais, elle est connue. Et
puis, le dessert, pareil, toujours français, marocain, chef français, chef marocain, avec ces petits jeunes de.
Et pour voir même le service, il sera fait par ses apprentis qui sont jeunes et qui vont nous servir ce dîner de gala qui sera gastronomique. Ce sera une première fois pour eux aussi. Et le choix, on revenait sur le choix aussi, pourquoi on parle de diplomatie, le choix aussi de la Maison du Maroc qui est l'Institut universitaire international, et c'était un choix aussi pas stratégique mais qui était un petit peu réfléchi, et on les remercie pour ça aussi. Donc il y aura plusieurs personnes, donc peut-être on aura encore d'autres personnes qui viennent d'Institut universitaire international, donc il n'y aura pas que le Maroc et la France, donc ce sera multiculturel.
Demain, est-ce que vous serez en direct durant ces deux jours sur les réseaux sociaux?
Oui, tout à fait.
Donc à défaut de venir, de participer à cet événement, pourra suivre sur les réseaux sociaux.
Tout à fait.
Exact.
Alors, il y aura de la musique marocaine,
variété française. C'est quoi les réseaux sociaux? J'imagine un nom, non?
Alors, les rencontres de la diplomatie culinaire sur les réseaux sociaux, on est tous sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram.
Twitter,
partout.
Et on remercie aussi.
Et ça s'intitule Les rencontres de la diplomatie culinaire.
Et
vous les remerciez qui?
Et ce montage de réseaux sociaux et plus les vidéos qu'on va passer demain, c'est effectué par l'agence FIDEP qui nous a accompagné bénévolement pendant tout ce travail-là.
Donc vous êtes bien entouré, je vois.
Oui, on a la chance d'avoir de très bons partenaires fidèles. Et pour cette première édition, on est très contents, franchement. On remercie aussi la boucherie Nia qui a offert toute la viande pour le gala. Vraiment, grand merci. FIDEP, Médéric et Maison du Maroc.
Il y a le parrainage aussi de l'ambassade du Maroc.
Et oui. Pour cette première édition, un gala d'exception.
Oui, tout à fait.
De quoi s'agit-il dans ce gala et quelle sera la teneur du gala demain, vendredi?
Alors, présentateur Rached Mbarki qui présentera
notre
cette soirée.
Notre confrère, celui qui présente sur la chaîne de BFM TV.
Exactement. Ensuite, il y aura un défilé de haute couture marocaine par Injoudar. Mm-hmm. On a la chance d'avoir Injoudar qui présentera 6 belles robes.
Bah, Indo la présente plus, elle est venue ici plusieurs fois.
Voilà.
Parler de son fashion.
Exactement.
Oriental Fashion Show.
Exact.
Tout à fait. Et voilà, après, il y aura des remises de présents pour les chefs français et marocains, des cadeaux qu'on a reçus par de grands partenaires. Voilà.
Donc, si j'ai bien compris, le programme, c'est un défilé.
Tout à fait. Pour la soirée de gala, oui.
Pour la soirée de gala. Un débat, peut-être? Non, même pas?
Non.
Il y aura des intervenants.
Il y aura des discours, mais pas de débat.
Des discours qui tourneront autour de la cuisine, toujours?
Toujours.
La cuisine et la fraternité Maroc-France aussi.
France, ouais, voilà.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent, justement, pour ces deux jours qui les attendent?
Eh bien, c'est l'occasion de venir découvrir de très bons produits du terroir français et marocain. Des dégustations. Tout ça en animation festive. Donc c'est l'occasion de venir et ils seront pas déçus. Il y aura aussi Atef, le sculpteur sur fruits, qui cartonne en ce moment un peu partout. Donc on vous y invite vraiment de bon cœur et on vous accueillera chaleureusement.
Donc, quelle adresse? On a bien noté la Maison du Maroc.
Alors la Maison du Maroc pendant les deux jours, la Maison du Maroc à la Cité universitaire, et le dîner de gala, ça sera déjà clôturé, je crois. C'est à l'école Médéric qu'on remercie aussi.
Mais là, il faut être sur la liste, c'est ça?
Exactement. Voilà. Mais par contre, venez nombreux à la Maison du Maroc, Dar el Maghrib. pendant deux jours, de 11h à 17h, chaque jour, jeudi
et
vendredi.
Avec toujours le même sens de l'hospitalité, c'est ça ?
Toujours
la même chose. On vous a couvert avec des thés à la menthe.
Merci infiniment, Rachid Saïdi. Je le rappelle, vous êtes directeur d'exploitation pour les hôtels.
De la collection de monsieur.
Naïma Assifer, elle est élue ?
Oui.
On peut rappeler où, non ?
Oui, bien sûr, à Angerville, dans une commune de l'Essonne.
Maire adjointe,
tout à fait.
Absolument. Et vous êtes la présidente donc des rencontres diplomatiques, les rencontres diplomatiques culinaires.
Tout à fait.
Pour cette première édition.
Exactement.
Et bien bon courage et plein de bonnes choses.
Merci beaucoup,
souhaite.
Adil.
Merci
d'être
venu
ici.
Merci à vous.
Et vous êtes venu en direct et évidemment, vous avez pris la peine. Donc demain, rendez-vous à ne pas manquer durant ces deux jours. Merci à vous. On se retrouve dans une poignée de minutes. 0153483000. Je vais lancer justement, est-ce que vous considérez comme les 68% de la population qui estime que la justice est trop laxiste, la justice trop lente? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? 0153483000. Et puis le face-à-face, Nicolas Vidal, Philippe Nadji Bouriaki, Hamid Chriette viennent sur le plateau confronter leur point de vue sur les trois sujets d'actualité. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkal.
Les informés, justement, 19h20, si vous venez de nous rejoindre, sachez-le. Nous sommes en forme. En forme pourquoi ? Faites du bruit, les supporters ! C'était hier l'ambiance justement qui nous a secoué. Et puis enfin l'effet Lionel Messi qui a changé la donne du PSG à travers l'Europe, faut le reconnaître. On en parlera tout à l'heure aussi avec Bilal Nedman, mais moi dans les informés sur BFM, je voudrais qu'on commente justement le niveau du PSG, le niveau de Messi, mais surtout, surtout Zemmour. Regardez Zemmour qui crie victoire alors qu'il a tapé sur le PSG, qu'il les a même insultés. Je me rappelle il y a quelques mois, quelques années, il les a dit que c'était des gugus. Regardez ce qu'ils sont les gugus. Ça c'est Zemmour. Remets là s'il te plaît, remets. Et il s'en est vanté, Zemmour, il l'a posté sur son Twitter. Zemmour qui crie victoire sur le PSG. Non mais c'est quand même après, messieurs. Nicolas Vidal, bonjour.
Bonjour Adil Farkan, bonjour.
Comment ça va ?
Je suis en pleine forme et heureux d'être ici.
Eh bien écoutez, partagez, vous représentez un média en ligne.
Putsch Média, tout à fait, une chaîne YouTube, Putsch Live.
Ça marche bien.
Ça marche très bien, le débat.
Hamid Chriette, géopolitologue, bonjour.
Bonjour monsieur Farkan, comment ça va ? Très très bien.
Et enfin l'élu, bientôt. Le monsieur le conseiller Europe Écologie Les Verts.
Conseiller régional.
Régional, absolument. Monsieur Philippe Nadji Bouriaki, comment ça va ?
Ben, ça va très très bien, la nuit a été très courte. Mais voilà, c'est de la bonne fatigue.
C'est de la bonne fatigue.
C'était la victoire de Yannick Jadot.
Alors,
c'est
justement, parlons-en. Zemmour qui crie victoire alors qu'il a insulté les joueurs de Gugus. Lionel Messi qui change la donne. Est-ce qu'ils ont, ça y est, ils ont endossé cette stature internationale, Nicolas Vidal ?
Et moi, je ne pense pas. Je pense qu'il ne faut pas crier victoire trop vite sur ce qu'a fait Lionel Messi. Je vais être très bref là-dessus, mais sur le match hier soir, n'oubliez pas que Bernardo Silva rate un but tout fait à un moment d'un début de match qui aurait pu changer la donne. Le PSG a énormément souffert. Et pour revenir à la question presque géopolitique qui incarne Lionel Messi aujourd'hui, il a mis un but, très joli but. Il faut le reconnaître. Je suis un amateur de football et
magnifique.
Je le reconnais. Mais je veux dire par là, je crois qu'il va falloir quand même attendre de voir ce qui va se passer dans cette équipe du Paris Saint-Germain. On ne peut pas mettre sous le tapis quand même le dossier Mbappé, qui est un dossier quand même qui est vraiment un dossier stratégique à mon avis pour QSI. Est-ce qu'ils vont arriver à le garder ? Moi, je pense qu'ils n'arriveront pas à le garder. Et Lionel Messi est venu aussi. Nasser Khalifi l'a dit. Messi est venu pour que Kylian Mbappé reste. Et Khalifi l'a dit. Finalement, maintenant que Lionel Messi est là, Kylian Mbappé, il a appelé Kylian, bien sûr, n'a plus de raison de partir.
Donc, tous les ingrédients sont réunis justement pour que le PSG soit le grand favori de cette Ligue des Champions, oui ou non ?
Non.
Non.
Non, pas du tout.
Oh, je suis déçu. Je croyais que Nicolas Vidal allait me dire oui.
Ben non.
quelle déception.
Je suis discordant, dit Farkan, vous le savez.
Pour quelle raison ?
Parce que je pense que, je vous l'ai dit, je pense que Lionel Messi, moi aujourd'hui, à l'âge qu'il a, il a mis un très joli but, mais je suis pas sûr qu'il puisse tenir toute la saison.
Il n'est pas tout seul.
Non, il n'est pas tout seul, mais vous avez vu qu'il y a quand même des sacrés bisbis entre Neymar et Mbappé, tout ça, et je suis pas persuadé que le trio des trois, j'ai un petit chiffre à vous donner. Vous savez que le trio magique, Mbappé, Neymar et Messi, coûte au Paris Saint-Germain 3,5 millions d'euros par semaine, et je suis même pas sûr qu'avec ça, le PSG puisse faire un bon parcours. Je termine, j'ai scruté le match contre Bruges, et ben très sincèrement, c'était quand même pas du niveau d'un prétendant pour lever la Ligue des Champions dans quelques mois. Donc concrètement, il va falloir quand même attendre, et je pense qu'il faut avoir rester serein pour les supporters du PSG et très attentif aux performances des
Zemmour qui
crie
victoire alors qu'il a insulté les joueurs du PSG de Gugus. Je vais vérifier, mais ça doit être ça, hein, il me semble, de mémoire.
Oui. Moi, je pense que politiquement, c'est la première erreur d'Éric Zemmour. Bon, on peut parler sur Paris Match, mais ça, je m'en moque un peu. Mais sur cette vidéo qu'il a d'ailleurs, vous l'avez dit, hein, qu'il a publié sur ses réseaux sociaux, moi, je pense que c'est une première erreur.
Il l'a publié, s'en est vanté.
Ouais, c'est une première erreur d'Éric Zemmour.
Gugus.
Quand on sait, voilà, tout.
Il surnommait les joueurs du PSG de Gugus. Vous avez vu, Gugus.
Bien sûr.
Et maintenant, il vient les acclamer.
Et les réserves qu'il met aussi sur le Qatar, il faut le dire aussi. Hein.
Donc, oui,
ça, je pense que c'est une erreur politique majeure pour Éric Zemmour. Et il s'est laissé emballer parce qu'il était content du match. C'est un amateur de football, Éric Zemmour. Il l'a souvent dit. Mais là, je crois, très sincèrement, je suis dire, c'est une erreur politique majeure qui pourrait peut-être le suivre ou du moins être reproché.
Erreur politique, oui ou non? Tiens, on va s'adresser à un politique. Justement, Philippe Nadjibouriaki. Alors, vous partagez ce qui vient d'être dit par Nicolas Vidal. Oui, non, vous avez un autre avis. Et on écoutera celui de... Ahmed Chriat.
Je l'ai dit la dernière fois, je suis incompétent au foot, mais vraiment, je ne comprends
pas. Mais Éric Zemmour qui acclame le PSG,
peut
être compétent.
Il retourne à ses racines, Zemmour. Il est avec le peuple, et le peuple qatari. Zemmour, ça veut dire olive. Il a été retrouvé les siens, donc tout va bien. Alhamdoulilah. Éric, bienvenue, welcome. Il s'est commencé à se radicaliser, il faut faire gaffe.
Ahmed Chriat.
Écoutez, je pense qu'il ne faut pas trop décrypter sur ce geste-là. Éric Zemmour est supporter du Paris Saint-Germain. Maintenant, de là à en faire, je dirais, une analyse politique, c'est lui donner trop de notoriété. Je crois que dans les sondages, il est assez élevé aujourd'hui. Il faut savoir raison garder, avoir raison garder par rapport à Éric Zemmour, qui est un épiphénomène aujourd'hui politique. Donc, je pense que...
Épiphénomène, le mec, il gratte quand même jusqu'à 14%.
Écoutez,
je ne sais pas si on peut parler d'épiphénomène.
Nous verrons.
Quand on monte à 14% des sondages, on en parlera tout à l'heure.
Pour l'instant, pas encore déclaré.
À
ma connaissance, les sondages se sont toujours trompés. Vous n'allez pas me contredire sur ce sujet-là.
C'est vrai.
Et nous allons voir, pendant l'élection présidentielle, d'ici à 2-3 mois, quel score sera pour M. Zemmour sur les sondages. Donc, nous allons voir.
Bon, nous allons voir. 0153483000, on vous attend au standard justement si vous souhaitez commenter le match d'hier soir, le PSG à la Ligue des Champions. Est-ce que vous trouvez que la victoire a été à la hauteur? Est-ce qu'elle est méritée ou bien au contraire? Est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit, notamment par Nicolas Vidal, qui n'ont pas encore tout à fait la stature pour l'emporter cette Ligue des Champions, ce trophée de Ligue des Champions? 0153483000, amateur de foot ou pas? Vous avez le droit de donner votre avis. Avant de retrouver dans quelques minutes, je voudrais tout de suite, vous savez quoi, qu'on commence à parler de ce sondage explosif qui donne Éric Zemmour entre 13 et 14% des suffrages, y compris devant Valérie Pécresse. Vous vous rendez compte, Nicolas Vidal?
Ah oui, bah c'est une...
Mais là, on va prendre le temps d'en parler.
Oui.
Là, on prend le temps de décrypter.
Donc là, on y va. Eh ben oui, mais Pécresse, et puis il y a Xavier Bertrand, tout de même, 14%, vous l'avez vu. Et Éric Zemmour, moi je l'ai déjà dit sur la chaîne de laquelle j'officie, RT France, je pense qu'il va dynamiter la campagne présidentielle, ou du moins sur les thèmes qu'il va aborder. Et Éric Zemmour, si je devais faire un premier, parce que je suis éditorialiste politique, un premier décryptage, finalement, il n'est que le symptôme. Alors je vais reprendre les mots de Nicolas Sarkozy, hein, je le porte pas forcément dans mon cœur, mais bon, je trouve que c'était une analyse intéressante. Mmh. Il n'est que le symptôme finalement d'un vide politique et d'une langue de bois qui a sévi, incompétence qui a sévi depuis 30 ans. Et Éric Zemmour en fait va récupérer, peut-être, on en discutera ensemble, mais je pense qu'il est en train de récupérer finalement une langue cache qu'on partage ou pas ses idées. Il n'est pas question là de faire l'égérie ou l'éloge d'Éric Zemmour, il est là de faire une décrypte.
Il n'est pas en train de donner le tempo justement de cette campagne présidentielle, parce que j'ai l'impression qu'on, ça y est, les deux thèmes, on les a à peu près, hein, oui. Islam, immigration, insécurité, ça y est, on a installé, on vous a donné le temps. Et souveraineté, absolument.
En fait, l'analyse politique que j'ai, c'était l'analyse, rappelez-vous...
Mais qui est derrière Éric Zemmour? Vous qui étiez éditorialiste politique, justement.
Alors, moi, je pense qu'Éric Zemmour, bon, déjà, ça fait 20 ans qu'on le voit partout, hein, qu'on partage des montées en puissance au fil des années, au fil des mois. Mais rappelez-vous,
en fait, Éric Zemmour, en tant que journaliste, pas en tant que...
Ouais, bien sûr. Il fait quelque chose de très simple, qui me paraît assez simple. C'est-à-dire, rappelez-vous, Nicolas Sarkozy, il était conseillé par Patrick Buisson. Voilà. Et Patrick Buisson, finalement, président avait cette ligne, on va dire maintenant zémourienne, c'est un gros mot peut-être, mais c'est zémourienne. Et en fait, Nicolas Sarkozy n'a jamais appliqué la ligne Patrick Buisson pour la réélection. Et finalement, c'est pour ça, à mon avis, qu'il a perdu. Et ça, on peut en discuter. Et Éric Zemmour, en fait, reprend. Il fait le mariage, à mon avis, entre identité et souveraineté. Une nouvelle fois, qu'on partage ou pas les idées de Zemmour, il fait cet alliage entre identité et souveraineté.
Mais souveraineté, de quoi, Nicolas Vidal, c'est, il nous parle d'une France qui c'est fini, elle est bannie, cette France.
Ben, c'est une France, peut-être, selon vous, Adine Ferkan, qui est bannie, mais aujourd'hui, je pense que dans son sillage, il peut ramener quand même une force, pas massif, mais il peut ramener quelques millions de Français derrière cette idée-là. Parce que c'est vraiment l'identité et la souveraineté qui développe. Et je trouve que ça a été oublié. Regardez,
il n'a pas loupé un chapitre, là,
regardez les Républicains.
Eric Zemmour, non,
les Républicains sur la souveraineté. Aujourd'hui, depuis le traité de Lisbonne en 2008, Nicolas Sarkozy a tué la droite, je l'ai déjà dit plusieurs fois, suite à ce traité, et ensuite a tué, pour moi, une partie de la classe politique, parce qu'à un moment donné, il s'est assis sur un référendum populaire qui est quand même, à un moment donné, le Saint-Sacrement de notre démocratie. Alors, et Éric Zemmour arrive par derrière avec avec quelque chose qui, il parle le cash, qu'on partage ou pas ses idées une nouvelle fois.
Donc il change la donne durant cette campagne.
Bien sûr, bien sûr, il change la donne.
Bon, bah écoute, en même temps, il mord sur l'électorat de Marine Le Pen. Hein. Amine Chriette.
Écoutez, monsieur Éric Zemmour, ça fait depuis 20 ou 30 ans qu'on connaît en réalité son discours sur la question de l'immigration, sur la question de l'islam et pas de l'islamisme. Hein.
Oui.
Monsieur Zemmour parle bien de l'islam. Et je pense qu'aujourd'hui.
Il rebat les cartes ?
Il ne rebat pas les cartes. Je pense qu'aujourd'hui, monsieur Zemmour est en mission commandée. On a vu sa dernière visite
par
avec Viktor Orban, par Marion Maréchal Le Pen. Monsieur Zemmour, qu'est-ce
que... Ah oui, vous allez loin, vous.
J'écoute, mais ça m'intéresse.
Monsieur Zemmour, il est en train de reconstruire ce qu'on appelle un parti néoconservateur. Et il est en mission afin de dynamiter, de rassembler d'abord les droites et de dynamiter Marine Le Pen, son parti politique, afin de reconstruire un parti néoconservateur pour 2026. Et
incarné par Marion.
Incarné
par Marion Maréchal Le Pen.
D'ailleurs, j'en veux pour preuve, lorsqu'il est parti visiter M. Viktor Orban, il a été visité avec qui ? Avec Marion Maréchal Le Pen. Donc il est en train. Deuxième des choses, M. Zemmour n'est pas encore candidat officiel, à ce que je sache.
Oui.
On ne sait pas encore s'il sera candidat.
La troisième
des choses, lorsqu'on parle de souveraineté, et là j'ai un désaccord avec Nicolas.
Je crois que c'est le face-à-face.
Je crois que lorsqu'on parle de souveraineté pour la France sur la question migratoire, sur la question économique, je suis moi-même français, je considère que oui, la France a bien évidemment le droit d'être une nation souveraine, mais il faut aussi que la coopération française avec d'autres pays du Maghreb ou d'Afrique soit aussi respectée. Hein, lorsqu'on voit par exemple que le franc CFA existe toujours dans les anciennes colonies françaises, on peut se poser des questions de souveraineté.
Ouais.
Et là, monsieur Éric Zemmour ne parle pas de ces questions-là. Comment la France va coopérer économiquement ? Comment la France peut-elle respecter la souveraineté monétaire de certains pays africains ? Lorsque M. Zemmour dit que l'islam et l'islamisme sont deux choses, pareil, comment M. Éric Zemmour, si le président de la République, va coopérer dans le cadre du dialogue civilisationnel ? Comment va-t-il négocier les prix du gaz avec l'Algérie ? Comment va-t-il négocier les prix du pétrole avec l'Arabie Saoudite ?
De bonnes questions, justement. Attendez, s'il vous plaît, Eric Triette, il est 19h31. On en parle.
À un moment donné,
on reprend dans une poignée de minutes, vous m'accorderez, mais comme je ne veux pas louper le Quoi de Neuf, c'est tout de suite, c'est maintenant, avec quelques minutes de retard.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et on revient premier avec vous, les débatteurs, justement, les influenceurs qui sont ici. Le mercredi, ce qui dit mercredi, le Quoi de Neuf et son billet d'humeur. Carte blanche au docteur Majid Seoussine, bonjour.
Bonjour Adi.
Chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également à l'hôpital militaire. Bienvenue, et vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur sur le fameux mur. À vous la parole, docteur Majid Seoussine.
Eh bien écoutez, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est un beau proverbe qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Le Pen père avait coutume de dire qu'il préférait sa famille à ses voisins à ceux de la ville d'à côté, pour justifier la préférence nationale. Préférence nationale qui voudrait qu'on attribue les logements, les emplois et les prestations préférentiellement aux Français. Je tiens un pari avec vous, Adil. Je suis certain que dans quelques années, la préférence nationale sera une idée qui aura fait son chemin et qu'elle sera reprise par un grand nombre de politiques.
Oui.
De tout bord, comme beaucoup d'idées du RN, ce que l'on a coutume d'appeler la levisation des esprits. Cette semaine, on a vu comment cette préférence pouvait se décliner au niveau local quand on a délocalisé les craqueurs du jardin des Halles, non pas vers le 7e arrondissement pour casser les pieds à Rachida Dati.
Oui, c'est le mot qu'on puisse dire.
Mais vers cette bonne vieille Seine-Saint-Denis qui, dans la tête de tous, a une tradition d'idiote utile. Anne Hidalgo, spécialiste des leçons de morale sur tous les sujets et qui porte en bourbonnière sa conscience sociale comme Sarkozy porte ses Rolex au poignet, n'a pas beaucoup protesté quand on a déporté vers la porte de la Villette les toxicomanes dont personne ne sait quoi faire. Et pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas facilement, on a construit un mur de séparation, le fameux mur de la honte. Des murs comme ça, entre le 93 pauvre et Paris veille de lumière, beaucoup en ont rêvé, mais personne n'avait osé jusque-là. Faut-il être surpris ? Paris a toujours chassé vers les marges ceux qui ne voulaient pas de chez lui, ses usines, ses pauvres, ses déchets. Et quand la capitale a besoin de s'agrandir, elle absorbe ses faubourgs. D'ailleurs, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le mot banlieue ne veut pas dire lieu de bannissement. Ouais. C'est plutôt lieu qui est régi par la même autorité administrative à un lieu de distance. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se préparer avec le Grand Paris, qui continue le même mouvement. Mais le plus triste dans toute cette affaire, c'est qu'elle révèle que l'État est faible, qu'il se comporte comme une femme de ménage qui ne saurait que mettre la poussière sous le tapis après avoir menacé tout le monde d'un grand coup de balai. Droite comme gauche, nous avons une classe politique médiocre, terne, incapable de se frotter aux grands défis, laissant la part belle aux amuseurs publics, aux extrémistes qui ne feraient d'ailleurs probablement pas mieux qu'eux. Et peut-être que finalement, il ne nous reste qu'une seule chose à faire, et c'est ce qui risque d'arriver un jour, faire un gros tas avec ces politicaillons méprisants et construire tout autour d'eux, pour qu'ils ne reviennent pas, un mur afin que l'on rebâtisse quelque chose de neuf.
Exact. Oui, c'est... Alors, vous venez de, évidemment, nous apporter un éclairage qui est assez intéressant avec votre point de vue, mon cher Majid, c'est aussi une docteur. Merci pour ce billet d'humeur.
Je vous en prie, mon cher Adil.
Est-ce que je vous donne rendez-vous sans faute mercredi prochain ?
J'en aurai la convocation, je vous redoute tellement.
Qu'est-ce qu'il est terrible, ce docteur. Ça va l'ambiance dans les hôpitaux en ce moment, mon cher docteur ?
Aussi mauvaise que d'habitude.
Bon.
Il n'y a pas que les hôtels et les restaurants qui souffrent de pénurie. Nous n'avons plus d'infirmières ni d'aides-soignantes et peut-être un jour plus de médecins. Donc il n'y aura plus. On vient d'annoncer aujourd'hui qu'on a fermé, malgré le Covid, 6000 lits.
Waouh.
Bientôt il n'y aura pas grand-chose à fermer.
Vous êtes en train de m'annoncer la mort des hôpitaux publics ou quoi là ?
Bon, on s'achemine doucement, doucement, doucement
c'est
vers
triste,
la mort des hôpitaux publics, bien sûr.
Oui, Nicolas Vidal, il est en train de. Ouvrez le micro, Nicolas Vidal, vous connaissez, c'est le fondateur du média en ligne Pouch. Qu'est-ce que vous avez envie de dire?
Je partage cette émotion, je passe à cette tristesse, cette crainte aujourd'hui, ces inquiétudes, puisque la fermeture des lits, ça fait un petit moment, et la case de l'hôpital public, ça fait un petit moment.
C'est fini.
Et vous voyez, ça rejoint notre sujet sur la souveraineté, mes amis.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci, docteur Majid Soussine, mais j'ai envie de croire encore, j'ai envie de rester optimiste, malgré ce que vous êtes en train de nous annoncer, docteur.
Écoutez, on peut pas. Il faut vivre comme si demain était le paradis, sinon la vie est insupportable.
Vous avez raison. Allez. Jingle, c'était le quad neuf.
Les informés, le quad neuf.
On marque une courte page pub et on se retrouve dans une poignée de minutes avec Nicolas Vidal, Amit Riet et Philippe Nadji Bouriaki, qu'on n'a pas entendu jusqu'ici, à qui je vais donner la parole. A tout de suite.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Et nous sommes en direct justement avec le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Nous sommes ensemble, dernière ligne droite jusqu'à 20h avec Philippe Nadji Bouriaki, avec Nicolas Vidal et enfin Mitch Riet. Tiens, je vais donner un petit mot en quelques secondes à la victoire in extremis de Yannick Jadot. Et vous le connaissez très bien. Philippe Nadji Bouriaki, un mot sur sa victoire.
Écoute, moi depuis maintenant plus de 10 ans, je suis avec lui, auprès de lui, je le soutiens. Je suis très heureux qu'il ait brisé cette fameuse chaîne de celui qui est censé gagner et qui ne gagne pas chez les écolos. Donc il a gagné, in extremis ou pas, ce qui compte c'est la victoire. Mais puis, surtout ce qui compte c'est ce qu'il a dit hier. Il a appelé tout le monde à faire bloc et tout le monde à
être
présent.
J'ai envie de vous faire commenter justement cette intention de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Hypothèse avec tous les candidats, hein. Je mets tout le monde, ils sont toute une série, là plus d'une dizaine. Yannick Jadot, 6%.
Ouais.
Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Ah ben, ça me donne envie de sourire parce qu'il y a 2 jours, il était à 10%, donc il a perdu 4% en 2 jours alors qu'on n'a pas pu faire campagne. Tout va bien.
Ça date d'hier, hein.
Ouais, il y a 2 jours.
De ce matin.
Sur combien de personnes l'échantillon, ce qui est intéressant, c'est combien de personnes. Les sondages, Adil, évidemment, on est tous très contents.
Harris Interactive.
Alors, tout va bien. Alors, si c'est Harris, ça va. Tu peux le multiplier par 3, le score. Donc, tout va bien. Non, bon. Franchement, sincèrement, rappelle-toi, en 2019, deux jours avant les élections européennes, on était à 6,5, on finit à 14. Ouais. Nous, on est des diesels bio, bien évidemment, je tiens à le préciser, sinon j'aurai quelques problèmes.
Très bon, je vais garder.
Ce qu'il ne faut pas entendre, diesel bio. Ce qu'il ne faut pas entendre, les amis. Oh là là, la diesel bio.
Non, parce que non, on est un petit peu. Le démarrage est un petit peu compliqué. Là, on était en pleine primaire. Donc maintenant, on a le candidat du pôle écolo. Hein, il y a Génération S, Cap 21, l'AEI, le MDP, Europe Écologie Les Verts et Génération Écologie.
Allez, il faut que j'avance.
Donc vraiment, ben justement, on va avancer très vite. Et
ah, j'aime, il est trop fort.
Et vous allez voir
Philippe Nadjibouria, qui voudrait vous entendre justement sur l'élection, sur les sondages, pardon, vous avez vu, oui. Sur l'élection. Marine Le Pen qui s'effondre, Mélenchon qui remonte, Zemmour qui donne une claque à tout le monde et qui est quasiment au coude à coude avec, évidemment, ouais, les uns et les autres. Non. Alors dites-moi,
moi, je pense sincèrement,
Éric Zemmour, est-ce qu'il est tendance ou est-ce que simplement il sort dans une espèce de voilà, alors, il est dans l'air du temps.
Il est surtout téléguidé et aidé par Macron. Ça fait le jeu de Macron.
Ah, par Macron. Bah, alors il y a Marion Maréchal Le Pen, oui, et vous, alors, vous dites
mais,
c'est Macron.
Mais il a raison, je suis d'accord avec Hamid. Je pense qu'il prépare vraiment le futur de Marion. On les voit ensemble. Ils ont fait des conventions ensemble.
Il critique jamais Marion Maréchal Le Pen.
Au contraire, il a dit que du bien d'elle, qu'il aimait beaucoup, etc. On l'a vu sortir du repas main dans la main avec Marion.
Il a participé à son école.
Au déjeuner d'Orban. Oui, effectivement. Et puis elle a toujours appelé au rassemblement, enfin à la passerelle entre les droites traditionnelles et la droite nationale qu'elle dit. Mais ça reste toujours l'extrême droite. Mais si tu regardes bien, il pique beaucoup de voix à la droite et pas autant que ça en vérité au Front National. Donc dès qu'elle va mettre le turbo sur ces thématiques fortes, qui est l'immigration, la sécurité, il va vite se faire distancer. Ça, c'est une certitude. Mais
vous
il va empêcher le.
Nicolas, c'est intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, Philippe Nadjibouyaki. Nicolas Vidal, et ensuite après Amit Triet.
Je ne partage pas l'espoir éco-responsable de mon ami Philippe, parce qu'il y a quand même des accords de fond qui pourraient subsister entre Marion Maréchal Le Pen, Marion Maréchal, parce qu'il faut l'appeler comme ça maintenant, et Éric Zemmour sur un sujet très précis, c'est l'Union européenne. Pourquoi je reviens ça, parce que Marion Maréchal l'a dit à plusieurs fois, même chez nos confrères de Sud Radio, qu'elle ne voulait pas sortir de l'Union européenne. Alors je ne dis pas qu'Éric Zemmour va en sortir, mais il est beaucoup plus dur, c'est la question de souveraineté, et je ne suis pas persuadé qu'à un moment donné, ça va être vrai. On a parlé beaucoup d'immigration ici, beaucoup, mais je peux vous assurer aussi, Adil Farkan, que l'un des sujets phares sera aussi notre souveraineté, notre appartenance à l'Union européenne, et c'est aussi
alors,
pour ça que la droite...
Allez-y, justement, je voudrais qu'on en parle,
Moi, j'aimerais bien lire une déclaration de Zemmour qui dit qu'il veut sortir de l'Union européenne.
Non,
tu me ramènes une déclaration.
Non, j'ai pas dit ça.
Mettez-vous d'accord, les amis.
J'ai pas dit qu'il voulait sortir de l'Union européenne. J'ai dit qu'il était beaucoup plus dur envers l'Union européenne en disant qu'il n'accepterait pas tout de l'Union européenne.
Ah, aussi critiquer les institutions de l'Union européenne, la Cour de justice européenne, même Marine Le Pen.
Mais est beaucoup plus radical là-dessus, dans la solution à apporter, dans le retour.
Alors, si on veut être honnête sur la question de l'Union européenne, c'est ce que propose Asselineau, un Frexit.
Oui.
Là, pour le coup, c'est le seul candidat.
C'est pas ce que propose Zemmour.
C'est pas ce que propose Zemmour.
Non, pas du tout.
Donc, s'il ne le propose pas, c'est qu'il est pour l'Union européenne et qu'il est. Que la France reste.
Vous êtes d'accord avec ça?
Donc il n'est pas souverainiste. Ça veut dire qu'il n'est pas souverainiste.
Alors, moi, je suis pas partisan de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'au moins, il y a une chose qu'il n'est pas, c'est de dire l'Union européenne, on peut la changer à l'intérieur. Ça fait 30 ans qu'on nous répète ça, ce n'est pas possible. Lui, une nouvelle fois, qu'on partage ou pas, il dit des mots, peu importe. Mais il y a cette idée à un moment donné. Rappelez-vous, la politique de la chaise vide. Ça marche bien, ça, la politique de la chaise vide. Et bien entendu, aujourd'hui, depuis 20 ou 30 ans, nos anciens présidents et nos présidents actuels, encore plus nos présidents actuels, aujourd'hui, et pas du tout, et vraiment, et pour le coup, je reviens là-dessus, et après j'arrête, Emmanuel Macron a vraiment un projet là-dessus. Hein. Il a un projet très clair.
Sûr.
Sur l'Union européenne.
Ah, sur l'Union européenne.
Et dissoudre.
Je voudrais rebondir sur ce qu'a encore dit Nicolas, c'est que Nicolas ne fait pas, si tu me permets, la distinction entre deux éléments. Éric Zemmour est pour une souveraineté identitaire. Il n'est pas pour une souveraineté économique. Or, Asselineau, sur la question du Frexit, il est pour une souveraineté économique, puisqu'il remet en question la question de l'économie. Or, les analystes ne le disent pas, c'est qu'Éric Zemmour est pour une souveraineté identitaire sur la question de l'immigration, les flux. Il est pour ce contrôle-là, mais il n'est pas pour un contrôle économique.
0,5,
Il
parle de protectionnisme, mais pas hors.
C'est déjà le premier pas faire vers la souveraineté.
Non, mais ça, c'est à la
main. Comment imposer un effet protectionniste tout en restant avec des traités européens, je veux dire.
Ami, c'est pas le diesel bio.
Ah, non, lui, c'est pas le diesel bio, lui. Turbo. Philippe Nadji,
La différence entre Marion et Zemmour là-dessus, c'est vraiment à la marge. Et crois-moi, contre identitaires d'extrême droite ou de droite extrême, ils finiront bien par trouver un compromis ou un consensus. Moi, je pense vraiment que c'est un poisson pilote. Rappelle-toi, il s'est fait insulter dans la rue. Emmanuel Macron l'a appelé quasiment pendant une heure pour lui dire tout le bien qu'il pensait lui.
Oui.
Donc, tout va bien sur ce sens-là.
Un entretien qui a duré une heure.
Ouais, mais je pense réellement que dès que ça va commencer à développer, y compris sur l'économie, sur la gestion, sur l'écologie, sur voilà, là il se fera distancer.
Donc Zemmour est en train de rendre service à Emmanuel Macron. Vous êtes en train de me faire croire, les amis.
L'objectif de Macron, c'est d'être au deuxième tour.
Alors, Philippe, il dit oui.
Marine Le Pen,
attendez, juste dans l'ordre. Philippe, oui.
Non, il est là.
Il est là, en commande.
Pour faire en sorte que la droite ne soit pas au deuxième tour. Parce que je suis persuadé qu'un Bertrand, qu'une Pécresse ou qu'un Jadot face à Macron, il se fait plier en deux, le taulier.
Alors, Nicolas Vidal.
Ah non, moi je pense que si jamais Éric Zemmour, si jamais il se présentait, il devenait officiellement candidat, et que jamais, allez, faisons un peu de politique fiction, chers amis, qu'il arrive au second tour. Alors, prenons l'exemple.
Ah ouais.
Je pense, dans mes politiques fiction, je pense qu'Emmanuel Macron aurait beaucoup, beaucoup à craindre de l'affrontement avec Éric Zemmour sur un truc. Par rapport à Marine Le Pen, rappelez-vous qu'il y avait été un autre.
Il est quand même au-dessus, Emmanuel Macron est quand même au-dessus. Vous ne pouvez pas nous faire croire que le face-à-face avec Éric Zemmour. Non, là, je ne suis pas d'accord avec Nicolas. Nicolas Vidal.
On partage quand même avec
lui. Je sais pas. Il y a plein de gens qui n'ont pas voté. Il y a plein de gens qui n'ont pas voté et qui n'ont plus envie de voter. Qui, lorsqu'ils verront un Zemmour au deuxième tour, iront voter, mais en sifflotant. Et d'ailleurs, on voit la sortie d'Emmanuel Macron par rapport aux harkis la semaine dernière. Et d'ailleurs, ça serait bien qu'il arrête de les insulter, parce qu'en les appelant les harkis, ça veut dire on continue à les appeler les traîtres, alors qu'ils sont battus pour la France. Et donc, faudrait peut-être les appeler les rapatriés ou les Français tout court qui sont battus. Donc, on voit bien que c'est un potentiel de 800 000 voix. J'entends dire dans des circuits non autorisés qu'il devrait faire une annonce concernant le 17 octobre 61. Donc, on voit bien que là, il essaye d'aller chercher les voix.
Emmanuel Macron ?
Bah oui.
On va l'appeler.
Il sort le chéquier.
On va l'appeler, les amis. Ahmed Chriette. Je vous vois, évidemment, en pleine réflexion. Que se passe-t-il ?
Non, mais écoutez.
À regarder l'un et l'autre.
Ce que dit Nicolas, moi, je pense que ce qu'il dit, c'est que Emmanuel Macron, quand même, redoute un débat avec Zemmour, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le tempo qui est donné sur des thématiques sur l'immigration, etc., c'est Zemmour aujourd'hui qui donne ce tempo dans la campagne médiatique. Et on voit l'opportunisme médiatique, l'opportunisme électoraliste que Emmanuel Macron. Avec la déclaration. Oui, bien évidemment. Sur la question des visas, on voit bien que ça n'a pas été fait au hasard. Le calendrier électoral est bien précis. Emmanuel Macron aurait pu le faire bien avant. On voit sur la question des harkis. On voit aussi sur la reconnaissance de l'Algérie, peut-être le 17 octobre 61. Donc, on voit tout ça. On voit aujourd'hui qu'il y a un calendrier et on voit que M. Zemmour pousse ce calendrier électoral-là. C'est lui qui donne le tempo. Et les médias, en tout cas, je suis d'accord. Voilà. Je veux dire, cette musique-là. Et je pense qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est tout à fait à craindre de faire un débat avec Éric Zemmour, parce que Éric Zemmour, on peut dire beaucoup de choses sur lui, mais.
Vous savez ce que dit François Hollande?
C'est une personne
compétente. François Hollande, et j'aimerais en finir là-dessus. François Hollande appelle à faire la part des choses entre la poussée médiatique des uns, évidemment, en faisant référence à, j'imagine, Éric Zemmour, et la réalité de la France.
Un ancien président n'aurait pas dire ça.
Moi, c'est ce que je m'apprêtais à vous dire, Nicolas.
Il a été président, François Hollande.
Non, mais François Hollande, est-ce qu'il a été président?
D'accord, ok.
C'est pas longtemps. C'est pas lui à la résolution numéro 27 qui prévoyait le droit de vote des étrangers pour les élections locales.
Ouais.
Moi, j'inviterais François Hollande à bien profiter de sa retraite avec ses gardes du corps, son bureau, sa secrétaire et ses transports.
Son scooter et ses croissants.
Voilà.
Vous êtes vache.
Ouais, mais ça, c'est sa vie privée.
Moi, pour rebondir, vous savez, en tout cas, ce qu'il faut aujourd'hui, en tout cas, pour rebondir sur la candidature des Zemmour au-delà du personnage, ce qu'il faut aujourd'hui pour la France, pour notre pays, c'est un projet vraiment économique et social.
Ouais.
Et effectivement, avoir un avenir sur les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies. Aujourd'hui, la question écologique, elle est très importante dans le cadre d'une économie libérale qui est de plus en plus, je dirais, qui court vers cette croissance-là, et qui est limitée avec la raréfaction des matières premières. Ça, ça pose des vraies tensions aujourd'hui géopolitiques. On voit l'augmentation du gaz. Ça va être des choses concrètes que M. Zemmour ne connaît pas.
L'augmentation du gaz, l'indépendance énergétique,
du carburant.
Donc,
l'augmentation de l'électricité. Ça sera des thématiques vraies. M. Zemmour est une personne qui fait partie d'une caste médiatique élite. D'accord.
Alors, en un mot, allez, on arrive au terme de cette émission, s'il vous plaît. Je voudrais juste, en une seconde, s'il vous plaît, parce que j'aimerais quand même vous entendre là-dessus. Selon un sondage, messieurs, 68%.
Vous faites votre émission sur le sondage.
Oui, c'est aussi ça.
Moi, je l'assume.
Non, mais écoutez, là, franchement, attendez.
De qui
on peut commenter des sondages.
La population estime que la justice est trop laxiste. Vous êtes d'accord ou pas?
Non, mais c'est un vrai souci. C'est un vrai, vrai souci, ce truc. Et puis, en plus, je vais répondre très vite.
On en fera des
c'est qu'à
là-dessus.
Un moment donné, en plus, ça continue à affaiblir la légitimité de l'État. Si les gens, à un moment donné, pensent que la justice est trop laxiste, alors il y a beaucoup d'incarcération.
Donc, vous êtes d'accord avec la population.
C'est l'application des peines qui pose problème. C'est très complet comme ça, mais c'est l'application
c'est
des peines.
C'est ce que disent
aussi.
Les Gilets jaunes aussi.
Voilà, c'est l'application vrai, c'est des peines. Et les Gilets jaunes, par contre, eux, n'ont pas eu beaucoup de problèmes à la justice. Beaucoup de problèmes.
Alors, moi, je vais vous dire, la justice, elle est ce qu'elle est. Aujourd'hui, la justice a peu de moyens. Il faut lui donner des moyens pour qu'elle ne soit plus laxiste.
Voilà, Mago. Oh, il s'est transformé, il a mis son habit démagogue. Qu'est-ce qui s'est passé là?
J'ai une circo pour
vous
toi.
Vous avez jamais entendu comme ça?
J'ai une circo pour toi.
Vous êtes démagogue, là vous avez été démagogue.
Être présent là, il faut.
Philippe l'a dit,
financer
la justice.
Non, mais il a dit quelque chose d'intéressant.
Oui, mais je suis d'accord, je le titille un peu. Oh, je peux titiller notre ami géopolitologue.
Non, mais la justice ne peut pas réparer tous les maux de la société. Il faut être sérieux quand même.
Donc il faut des moyens, plus de moyens.
Plus de moyens. On leur donne moins de moyens, il y a moins de juges, il y a moins de greffiers, il y a moins de tribunaux et des prisons. Blindé. Donc, à un moment donné, les juges, tu veux qu'ils fassent quoi, les magistrats?
Ah, bah, je suis d'accord avec vous.
Sérieusement.
Nicolas Vidal, rappelez-nous vos médias en ligne, s'il
Pouch
vous plaît.
Pouch Média sur Internet et Pouch Live, l'émission trois fois par semaine avec des invités très discordants.
On va venir.
Excellent, excellent. À bientôt.
À bientôt.
Et c'est à bientôt, Nicolas
Vidal. Merci beaucoup et à très bientôt.
Des prisons à bientôt, Mitch Rieck.
Que l'on va régler les problèmes de la justice.
À très vite.
À bientôt, Mitch
Rieck. Je vais
alors cette émission. S'il vous plaît, c'est un sacré...
Je suis désolé,
vous étiez en forme. Ah ouais. Bonjour, mon cher Bilal Nedman.
Je ne sais pas ce que vous m'avez donné dans votre café, monsieur.
Mais j'ai mis quelque chose.
Là, c'est chaud.
Bilal, quel est le programme rapidement qui nous attend?
Ah là, le programme. On va parler de la victoire du Paris Saint-Germain. Eh oui.
Vas-y,
c'est ça. On va parler du Paris Saint-Germain, ben ouais, de Riyad Mahrez qui est passé à côté de cette rencontre, sans oublier aussi les incidents dans les stades, Adil.
Oui.
Les supporters assez un peu névrosés, mais aussi galvanisés, on ne sait pas pourquoi.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Que ça soit sur le match d'hier soir, mais aussi sur les différentes rencontres à travers le pays, en Ligue 1, Uber Eats. Et on reviendra aussi sur la défaite du Real Madrid.
Aïe. Voilà. Beau programme qui nous attend, Bilal, à 20h pétante.
C'est ça.
Allez, ne bougez surtout pas, c'est Bay Bilal et Nedman avec Time Sport. Moi je vous dis, à la réalisation c'était Yanis, à demain, avec autant de plaisir les amis. Et comme vous le savez, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.